Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Kurtz, et pour m'accompagner dans cette émission aujourd'hui, voici Peter. Salut Peter.
Salut Kurtz, comment ça va?
Oh bah ça va, et toi depuis Cannes la dernière fois qu'on s'est vu?
Oui, tout à fait, bah, ça va, la pêche.
Eh bah super. Donc un petit rappel sur le format, les Jeux du Mois c'est un format dans lequel les chroniqueuses et les chroniqueurs de l'équipe viennent présenter un jeu de sortie plutôt récente qu'ils ont particulièrement aimé, avec ses qualités et ses défauts, et donc un format qui se veut également critique. Voilà, donc on va commencer par vous dévoiler les deux jeux qu'on va mettre en lumière dans cet épisode. Peter, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Dis-moi, est-ce que t'as misé sur le bon cheval au moins?
Alors là, oui. Après une longue période de quelques mois de disette sans tester un jeu qui me donne vraiment envie d'y revenir, je viens de trouver mon poulain. Je peux même prendre le risque de miser dessus. Je crois et j'espère qu'il va trouver son public et ne pas se faire oublier trop vite. Il s'agit de Longshot, le jeu de dés. Et toi, Kurt? La période des carnavals te manque déjà?
Ah bah oui, pas de rédemption pour moi aujourd'hui. On va directement plonger dans les péchés avec Carnival of Sins.
Ok, très bien, mais commençons par remercier nos donatrices et donateurs qui nous aident à réaliser ce podcast. Donc nous avons Roland, Croquelume, Gnocliflet, Laurent36, RetroFX, Pascal Mathieu, Ricky, Delotte, Grovast, Biwan, Deckmoon, Calervé, 4-3, Karl Schnaps et Johan.
Et nous remercions également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, toutes équipées d'un café-jeu. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.fr. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente, qui mettait à l'honneur Dixit Kid, présenté par Elodie, et Cub the Crab, présenté par le Pionfesseur. Alors, une émission qui a fait peu de commentaires, seulement 2, mais des commentaires mathématiques. Est-ce que tu veux nous en dire un mot?
Ouais, et d'ailleurs sur les 2 commentaires, en fait, le deuxième, c'est la réponse d'Elodie au premier. Donc le premier commentaire qui était celui de Benjamin LB qui revient. Alors moi j'avoue, j'ai pas écouté l'émission encore, hein, j'ai un peu de retard. Apparemment, il y a eu une discussion sur les combinaisons d'animatrices possibles pour cette émission. Et donc il y a eu un calcul qui a dû être donné à l'antenne. Et Benjamin LB revient sur le calcul justement qui lui semblait pas forcément exact. Et donc il nous refait un petit cours de maths effectivement sur ce qu'on appelle une combinaison. Sur le nombre de possibilités, en fait, pour transcrire un petit peu ça en langage plus commun, le nombre de possibilités de duo d'animateurs pour l'émission. Voilà. Et donc, Elodie revient sur le sujet et rappelle que oui, l'ordre du duo peut avoir une importance puisqu'il y en a un qui prend plus la présentation de l'émission dans le duo. Alors que l'autre chroniqueur va plutôt réagir. Et d'ailleurs là, c'est toi, Kurtz, là qui a justement le pilotage de l'émission. Par exemple,
Kurtz plus Peter ou Peter plus Kurtz, ça compterait comme 2 duos différents dans ce cas-là, effectivement. Ensuite, sur Discord, nous avons eu un commentaire concernant l'émission de RKF qui nous proposait une version maison d'un des jeux présentés. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller regarder sur le Discord. Ça prouve que certaines idées donnent encore envie de bricoler et d'expérimenter. Alors, je crois qu'on va pas être beaucoup plus avancé aujourd'hui pour faire des ponts entre nos 2 jeux, parce que des fois les 2 jeux se répondent bien. On va voir aujourd'hui si c'est le cas. Mais qui sait, on aura peut-être des surprises en cours de route.
Eh oui, j'ai déjà pensé à quelque chose, ouais.
Eh ben parfait, tu nous en diras un mot à la fin, super. Eh ben écoute, je crois qu'on est prêt, on peut commencer. Je te laisse la parole pour nous présenter ton jeu.
Oui, et donc mon jeu, le jeu du mois que j'ai sélectionné cette fois-ci, donc c'est mon 3e jeu du mois. Et cette fois-ci, c'est pas pour encenser un jeu d'Alexander Pfister. Tu le crois, ça, Kurt?
Bah, écoute...
C'est une sacrée entorse à la règle, pourtant hyper fiable, du jamais 203, parce que mes deux derniers jeux du mois, qui étaient aussi mes deux premiers, d'ailleurs, c'était sur Pirates de Maracaibo et Great Western Trail El Paso, donc deux jeux d'Alexander Pfister. Et donc là, ce n'est pas le cas. C'est Longshot, le jeu de dés, un jeu de Chris Handy, qui est illustré par Klaus Souza, édité par Perplexed et localisé en France par Matago. Son édition française, elle ne dispose d'ailleurs pas encore de sa fiche sur BGG, et je trouvais ça un peu étrange. Alors peut-être parce qu'il vient tout juste de sortir, donc il est sorti au mois d'avril. Il n'est pas sorti partout encore, de ce que j'ai cru voir un peu sur le net et dans les boutiques physiques de ma ville. Donc voilà, ça sort tout doucement, mais au jour où vous écouterez cette émission, normalement, il devrait être disponible partout. En tout cas, il était possible de s'en procurer un exemplaire lors du Fige fin février. C'est ainsi qu'un ami a pu se le procurer et que j'ai pu le tester un peu avant sa sortie officielle, du coup. Alors moi, je l'avais pas vu au Fige. Je sais pas toi, Kurt, si tu l'avais vu.
Pas du tout, non, pas du tout.
Il m'a dit, le collègue, il m'a dit que c'était assez confidentiel. Lui, il est tombé dessus un petit peu par hasard, là, dans un coin. Voilà, c'était pas forcément bien mis en avant. Bon, en tout cas, bah, grâce à lui, j'ai pu le tester, voilà. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 8. Alors, j'ai pas testé le mode solo, mais j'en toucherai deux mots tout de même, parce que j'ai lu les règles. Donc, voilà, je pourrais donner un petit peu un éclairage là-dessus. Moi, je l'ai testé à 5. Et je pense pas me tromper en disant qu'il se joue bien dans toutes les configurations à partir de 2. Voilà, j'expliquerai pourquoi. Les parties sont annoncées pour 25 minutes environ. Alors moi, je suis assez d'accord dès lors qu'on maîtrise bien les règles, hein, c'est comme toujours. Hein, et les différents pouvoirs des chevaux, surtout, qui sont écrits sur les cartes sans qu'on passe trop de temps à les lire. Après, bon, à force, on les connaît, donc on gagne du temps là-dessus, puisque on a pas besoin de se pencher pour aller voir pour aller lire le pouvoir du cheval. Voilà. Et en tout cas, le nombre de joueurs n'influence pas, ou alors très peu, la durée de la partie. Ça, c'est important de le souligner aussi. Pour l'âge recommandé, l'éditeur indique 14 ans ou plus, hein, avant d'y jouer. Moi, franchement, je suis assez surpris qu'il se tire ainsi une balle dans le pied, parce que je le trouve vraiment très accessible, ce jeu. D'ailleurs, son poids BGG n'est que de 1,94 sur 5. Hein. Donc moi, j'y ai joué entre adultes, mais franchement, je pense qu'à 12 ans, c'est largement OK, il n'y a pas de question à se poser. Voire même avant, pour des jeunes joueurs bien entraînés, je pense à partir de 10 ans, des gamins qui ont l'habitude, il n'y a pas de problème. Hein.
Pardon, excuse-moi, j'aurais dit 10 ans aussi, ouais, sans problème, à mon avis.
Ouais, ouais. Tu y as joué, toi, aussi, Kurt ?
Je l'ai testé, ouais, ouais.
Ah, d'accord, OK. Bon, ça va, tu confirmes aussi. Et pour le prix, il est annoncé à 27,90€ à la Caverne du Gobelin, mais il n'est pas commandable encore au jour où on enregistre. Hein, c'est indiqué rupture de stock, donc je pense que c'est juste qu'ils ne l'ont pas encore rentré dans le stock. Il y a d'autres sites concurrents où c'est déjà possible de le mettre dans son panier. Alors, je vais commencer par le sous-titre du jeu, et pas son titre. Donc le sous-titre, c'est le jeu de dés, hein, Longshot, le jeu de dés. Alors voilà, encore un jeu qui est affublé d'un sous-titre jeu de dés qui résonne, chez moi en tout cas, négativement. Hein, c'est un peu comme le sous-titre jeu de cartes ou le sous-titre Roll and Write. Je sais pas si ça te fait ça, toi, aussi, Kurtz, quand tu vois ça sur un jeu.
Disons que récemment, quand on a un jeu qui existe et qu'un jeu dérivé sort en version... light, entre guillemets, avec un, comme tu dis, un jeu de dés, un jeu de cartes. Récemment, on n'a pas forcément eu très bonnes expériences, hein. Coucou Seven Wonders.
Voilà, c'est un peu ça, ouais. Ça me donne un peu envie de fuir, hein, quand je lis ça, hein, c'est clair. Bon. C'est effectivement un sous-jeu du jeu d'origine, hein, quant à ce genre de sous-titre, hein, voilà, qui avait pas de, un jeu d'origine qui avait pas de sous-titre réducteur, hein, bien qu'ayant peut-être des dés aussi, hein, ça veut rien dire. Bon. Et puis alors pour Longshot, le jeu de dés, c'est d'autant plus mal choisi qu'il n'y a que deux dés dans le jeu. Alors bon, appeler le jeu de dés avec juste deux dés, bon, des fois c'est un peu limite, parce que je sais pas toi, mais moi quand je vois le jeu de dés en sous-titre, bah, je me dis bon, ok. C'est un jeu réduit, c'est une version light, mais au moins on va avoir des brouettes de dés à lancer, je sais pas, 6 minimum à faire rouler à chaque tour. Moi j'aime bien, c'est une sensation assez satisfaisante, hein, de faire rouler des dés. C'est peut-être ton cas aussi d'ailleurs, Kurtz, vu le jeu que tu as choisi.
J'aime beaucoup ça aussi, faire rouler les dés, oui, effectivement, ouais.
Pas trop en dire sur ton jeu, mais je crois que ça en fait partie, hein.
Voilà.
Et tu vois, c'est peut-être ça le point commun entre nos deux jeux, Kurt.
Effectivement.
Parce que toi, il s'appelle pas le jeu de dés, mais il y a
Il y a
des
des
dés,
dés.
et moi, il s'appelle le jeu de dés, il y en a peu, en fait.
Ah oui.
Bizarre, hein. Voilà. Bon, par contre, moi, j'aime pas trop le résultat que donnent les dés. Ça me convient jamais. C'est bizarre, ça. Non, mais c'est surtout que c'est du hasard pur. C'est complètement random. C'est-à-dire que la probabilité est toujours la même à chaque lancer de dés. Donc, bah, si t'as le malheur de faire toujours le même chiffre et que t'en attends un autre pour te relancer dans la partie ou faire une action particulière qui viendrait te débloquer, bah, t'as aucun moyen de te dire, bah, j'ai fait 3-3 d'affilée, bah là, je vais pas refaire un 3. Bah si, en fait, t'as toujours la même probabilité de refaire un 3. Donc ça, moi, ça me gave un peu les dés par rapport à ça. À la différence des cartes, où quand tu remets pas dans la pioche, bah, tu pioches une carte, bon, ok, t'as une carte pourrie, t'as une carte qui te sert à rien, mais tu la mets de côté, et au moins, t'es sûr que bah, tu vas pas la repiocher, quoi. T'as un petit peu d'espoir que ça soit mieux le prochain coup. Voilà. C'est l'ambiance du dé petit chevaux, tu sais, tu dois faire un 6 pour sortir de ton écurie, un nouveau cheval, je sais pas si tu te souviens. Et bah du coup, tant que tu le fais pas, bah, t'es comme un con en fait, t'es coincé quoi.
C'est ça.
Voilà. Donc bon, j'aime pas trop les dés pour ça. Ensuite, le titre Long Shot. Alors Long Shot, moi j'ai une bille en anglais, hein, j'ai pas une grande connaissance de l'anglais, donc quand je vois Shot dans un nom sur une boîte de jeu, bah je me dis que c'est sûrement un jeu de tir, quoi, un jeu où on va se tirer dessus. Surtout que c'est pas ce qui manque, hein, comme type de jeu, hein, des jeux où
Oui.
on doit se taper dessus. Donc Long Shot, moi je me dis bon bah tu dois te tirer dessus de loin, alors c'est peut-être un jeu de, tu vois, t'incarnes des snipers, tu dois te tirer dessus. Peut-être qu'il y aura des éléments de décor dans la boîte, une sorte de jeu de figurines simplifié, tu vois, avec des lignes de vue, des trucs comme ça. Et puis alors après, il y a l'illustration de la boîte. Bon, tu vois des chevaux qui sont bien vénères et qui courent dans un hippodrome. Alors là, moi, je me suis dit, mais c'est quoi le lien avec Long Shot, quoi? Parce que effectivement, ce jeu, c'est un jeu de course de chevaux. Donc bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut savoir, les gens veulent savoir quand même, hein. Donc je suis allé voir quelle traduction de l'expression long shot pouvait bien donner notre meilleur ami numérique. Alors, je sais pas toi si Kurt, t'es plus au point que moi, hein, sur la langue anglaise, si tu savais ce que ça voulait dire, long shot,
Moi,
l'expression.
j'aurais traduit ça par un coup de poker.
Ouais, bah c'est ça, ouais, t'es dans le vrai,
C'est un
hein.
peu, en gros, c'est un pari risqué, quoi, en gros.
Ouais, c'est
Je
ça.
mettrais ça dans ce coin-là, ouais.
Ouais, bien vu, ouais, c'est ça. Ouais. Donc sur Internet, j'ai trouvé des traductions du type, bah voilà, c'est pas gagné, il y a peu de chance, à tout hasard. Donc c'est assez difficilement traduisible, hein. J'ai senti que
Oui.
ça se galérait quand même à traduire ça. Mais c'est un jeu de hasard, avec peu de chances de réussir, et tu prends ton risque. Donc coup de poker, je l'ai pas trouvé, mais c'est peut-être encore plus adapté à ce jeu en tout cas. Parce que voilà, le jeu, il reprend l'ambiance des paris hippiques, hein, un jeu de course de chevaux et où on fait des paris, donc ça peut coller. Même si c'est pas franchement flagrant et c'est pas la seule mécanique du jeu, à la différence de Ready Set Bet dans le même thème, qui annonçait bien la couleur. Alors lui, dès son titre, là, il n'y a pas d'ambiguïté.
Oui.
On sent qu'on va faire des paris. Donc dans Long Shot, c'est le cas, mais pas que. En tout cas, pas uniquement avec l'action d'engager une partie de son magot sur un cheval en espérant qu'il arrive dans les meilleures places. Il y a d'autres manières de gagner des points que le seul fait de parier. C'est justement tout le sel du jeu dont je vais parler après. Donc le long shot d'origine, j'ai été curieux. Après, je me suis dit bon bah ça vient d'où ce long shot, le jeu de dés? Donc peut-être d'un long shot sans dés. Donc je suis allé voir ce long shot soi-disant sans dés. Donc oui, il existe. Donc c'est en 2009, Chris Handy qui fait éditer chez Z-Man Games son jeu Long Shot, hein, qui disposera de versions allemandes et chinoises en 2010, mais pas de françaises. Alors moi j'en avais pas du tout entendu parler. À cette époque-là, j'étais pas forcément beaucoup dans les jeux de toute façon. Et alors encore moins les jeux qui sortent que à l'étranger, hein. Je sais pas si toi ça te parlait,
Du
Kurt?
tout, non,
Ouais.
absolument pas.
Ouais, d'accord, ok. En tout cas, à regarder les photos sur BGG de ce jeu d'origine, j'ai l'impression que c'est C'est exactement la même chose que là, Longshot, le jeu de dés. Hein. Bon, sauf que les chevaux étaient en plastique, là ils sont en bois, et puis bah, le plateau est plus petit, c'est un peu plus ramassé. Mais voilà. Et par rapport aux dés, donc là j'ai poussé l'investigation, et bah oui, en fait il y avait des dés dans le Longshot d'origine, et en fait il y en avait autant, il y en avait deux, et en fait ils servaient exactement à la même chose. Donc c'est assez drôle finalement parce qu'ils disent Longshot le jeu de dés, mais en fait non, les dés c'est exactement la même chose que pour le jeu d'origine. En fait le plus gros changement par rapport à la version d'origine, donc à laquelle j'ai pas joué, hein, je me base uniquement sur ce que j'ai vu de BGG et j'ai lu la règle en anglais, c'est qu'il y a une dimension roll and write dans Longshot le jeu de dés. Ils auraient pu l'appeler d'ailleurs Longshot roll and write. Roll and Write, je vais y arriver, que ça aurait été plus honnête, je trouve, et plus logique que de dire le jeu de dés pour le différencier de son papa, en tout cas.
Oui.
Voilà. Donc, y a des plateaux plastifiés, il y a les feutres effaçables qui vont bien, y a tout le matos qui va bien avec le Roll and Write, et y a évidemment les dés qu'on va roller. Donc, cherchez l'erreur, hein, voilà. Donc revenons sur Longshot, le jeu de dés, donc titre original Longshot The Dice Game, qui est édité en 2022, donc ça fait aussi déjà quelques années, hein, moi, j'avais pas du tout entendu parler, donc il a été édité en VO anglaise via un KS, puis après il s'est retrouvé en boutique aussi, puis il a été décliné en plein de langues, alors en thaï, en coréen, en ukrainien, en chinois, en espagnol, en russe. Et finalement, faut attendre 2026 pour avoir une VF, parce que les autres langues ont été faites il y a quelques années. Donc, bah, je sais pas toi si cette version The Dice Game, t'en avais entendu parler, Kurtz?
Absolument
Ou
pas, non,
pas,
du
non,
tout.
pas non plus, d'accord. Bah voilà, donc nous, on a droit à cette version VF par Matago, qui le localise chez nous. Et entre-temps, donc on a loupé un épisode, enfin hein, les Français, on a loupé aussi un autre épisode qui est un nano game qui s'appelle Win, alors qui a été localisé aussi par Matago sous le nom de Win Pariez Juste. Alors moi, cette gamme nano game, j'avais dû en entendre parler, mais je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu physiquement en boutique. Donc c'est un format de micro-boîte qui nous vient de l'éditeur Perplexed, qui est la boîte d'édition de l'auteur de Longshot, donc Chris Handy, et qui l'a faite à l'origine justement pour créer ces nanogames. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ben du coup, parmi ces nanogames, il y a une version donc encore plus allégée de Longshot, qui s'appelle Win. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, cette gamme de nanogames.
Eh bien, il s'avère que je connais cette gamme, j'en ai plusieurs,
Ah!
et j'ai Win. Alors, je
Ah!
n'ai pas, je j'y ai pas joué, parce
D'accord.
que, en fait, c'est juste mon côté collectionneur qui fait que j'achète les nanogames.
Ah,
Voilà, c'est tout.
d'accord, ok.
J'ai dû à jouer un ou deux dans la gamme, mais celui-là, j'avais pas eu la curiosité de l'essayer.
D'accord, et eh ben visiblement, alors j'ai regardé vite fait les règles et une petite vidéo, bah, c'est vraiment le même esprit, quoi. Donc là, il n'y a pas de dés. Ah, pour le coup,
Non, ça tient. Non, ça tient pas dans la boîte.
je crois qu'il n'y a vraiment pas de dés. Mais il y a quand même pas
Ah non,
mal de choses dans la boîte, hein.
c'est vraiment la taille d'un paquet de chewing-gum.
Ah
Vraiment,
ouais!
c'est. Ah oui, c'est cette taille-là. C'est paquet de chewing-gum Hollywood, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est cette taille-là.
Incroyable, parce que justement je voyais une photo sur internet où tu vois quelqu'un qui a quatre nanogames dans une même main, quoi. Je dis, mais c'est pas
Absolument.
possible, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai vu sur le site de l'éditeur Perplexed là qu'il y en avait déjà une bonne vingtaine hein, qui était éditée donc en VO, hein, et Matago en a localisé, il localise petit à petit, de ce que je comprends, déjà une bonne dizaine en France
Je crois, oui.
qui sont dispo. Voilà, et dans la version originale, là, la boîte Perplexed là, qui les édite, elle fournit aussi une petite sacoche de rangement. J'ai l'impression que c'est pas dispo ça, côté français. Bien, bien. Donc voilà, donc il y a tout un univers finalement autour de Longshot, le jeu de dés, que moi je découvre totalement. Hein, voilà. Donc je reviens un petit peu sur le principe quand même de ce jeu, même si voilà, faudra que j'aille voir de plus près ces nanogames et notamment Win. Donc dans Longshot, le jeu de dés, chaque joueur incarne au départ un simple parieur, hein, amateur de courses de chevaux. Mais ce gars, il est riche. En tout cas, il est suffisamment riche pour devenir aussi propriétaire d'un cheval. voire de deux ou trois, mais franchement, trois, c'est assez rare parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent pendant la partie. On va en gagner à la fin, évidemment, en fonction du résultat de la course, mais pendant la partie, on n'en gagne pas tant que ça. Donc, on va pouvoir aussi devenir propriétaire d'un cheval, ce qui n'est pas obligatoire. Donc, on va pouvoir parier et être propriétaire, en sachant qu'on peut parier sur un cheval dont on n'est pas propriétaire et vice-versa. On n'est pas obligé de miser sur le cheval qu'on a acheté, hein. C'est comme si, au foot, le propriétaire de, je sais pas qui, de l'Olympique Lyonnais, parier toutes ses billes sur la SS Saint-Étienne. Hein. Voilà, je suis pas sûr qu'il aille jusqu'à le faire, mais en théorie, dans l'isoloir d'un PMU, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Donc, c'est important d'être riche dans ce jeu, tout simplement parce qu'à la fin de la course, bah, c'est le plus riche qui gagne. Hein. C'est une règle basique qu'on connaît depuis longtemps. Hein. C'est efficace, ça a fait ses preuves. Je pense évidemment au Monopoly, mais bon, il y a moult jeux où c'est ça. Donc ça a un intérêt, je trouve, de se baser là-dessus, puisque l'argent, il peut être dépensé en jeu pour faire des choses, hein, pour faire des actions, pour parier là, en l'occurrence, pour investir. Mais quelque part, quand on fait ça, bah, on perd aussi des points, puisque c'est les points de fin de partie. Donc ça génère aussi un choix et ça fait rentrer en jeu aussi la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a certains moments bah, où c'est le temps d'investir, puis il y a d'autres moments où bah faut mieux pas trop investir parce que son argent, on va peut-être pas le récupérer, donc autant le garder pour nous faire des points supplémentaires à la fin. Voilà, donc déjà une petite mécanique générale à avoir en tête sur ce jeu. Quel que soit le nombre de joueurs, il y a toujours 8 chevaux sur la ligne de départ, donc ça c'est invariant. Et à chaque début de tour, le joueur actif, il va lancer les fameux 2 dés. Donc sur ces 2 dés, il y a un D8, donc qui représente enfin qui correspond aux 8 chevaux qu'il y a en course. Hein. Et puis il y a un D6 qui lui affiche des valeurs, alors, soit 1, soit 2, soit 3. Hein, c'est juste un chiffre bêtement. C'est le nombre de cases dont le cheval qui est indiqué sur l'autre dé va avancer. Hein. Donc au début de tour, on commence toujours comme ça. On va lancer les 2 dés. Voilà, le cheval numéro 3 avance de 2 cases. Hop, on fait avancer son petit meeple sur le plateau. Règle basique, simple, efficace. Vous allez me dire, il n'y a pas d'intérêt. Bon, si c'est juste ça et que bah, tout se joue au hasard du dé, bon, voilà, pas grand intérêt. Mais ce dé qui a décidé du numéro de cheval actif pour ce tour va avoir finalement plein de conséquences. Alors tout d'abord, chaque cheval va entraîner dans sa course un ou plusieurs autres chevaux. Il va aspirer des chevaux en quelque sorte. Alors je sais pas si moi j'ai joué à Hit ou Flamme Rouge, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je sais pas si tu connais, hein, c'est dans Hit.
Oui, ça m'y a fait penser aussi, sauf que il n'y a pas de logique. C'est pas ses voisins, c'est bon.
On est d'accord.
Bon, il entraîne d'autres chevaux, c'est parti.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, quel que soit le nombre de cases dont le cheval principal va avancer, donc c'est une, deux ou trois, hein, et quelle que soit la position des autres chevaux aspirés, donc c'est ce que tu disais, hein, ils vont avancer d'une case. Tous les autres vont avancer d'une case. Alors, c'est pas thématique, hein, ça c'est clair, hein, si le cheval 6, il est derrière les chevaux 2 et 3, mais que sur sa carte, c'est indiqué que systématiquement, il va aspirer les chevaux 2 et 3, bah, c'est comme ça. Même s'ils sont devant lui, bah, ça va marcher. Alors, pourquoi il y a cette règle bizarre? Est-ce que dans les jeux comme Hit ou Flamme Rouge, bah, ça dépend de là où va se retrouver notre voiture ou notre vélo à la fin de son déplacement et s'il va subir ou pas l'aspiration par rapport à la position des autres chevaux. Ce qui est assez logique, hein. Là, c'est vraiment par rapport à ce qui est écrit sur la carte, hein. C'est comme ça, c'est gravé dans la carte. Et ben c'est par ce mécanisme que les cotes des chevaux sont fixées. C'est-à-dire que avec juste le D8, la probabilité est la même pour faire avancer les différents chevaux, hein, puisque voilà, il y a une chance sur 8 qu'un cheval avance en déplacement principal grâce à ce dé. Pourtant, les cotes sont fixes et le cheval 8 va rapporter plus que le 7, qui va rapporter plus que le 6, etc., etc. Et pourquoi ça? Et ben c'est parce que justement, le cheval numéro 1 va avancer avec l'aspiration, en étant associé à plus de chevaux que ne l'est le cheval numéro 2, que ne l'est le cheval numéro 3, etc., etc. Donc c'est comme ça que l'équilibrage du jeu se fait. C'est finalement en mettant une occurrence de déplacement secondaire de tel ou tel cheval plus ou moins forte ce qui va finalement faire que le cheval numéro 1 va avancer plus souvent. Alors, pas en déplacement principal, mais en déplacement secondaire. Voilà. Donc tout ça, c'est pour la théorie, qui est basée sur les conditions de course au départ, ce qui est écrit sur les cartes, hein, parce qu'il y a des aspirations qui sont déjà fixes, hein, en fonction des chevaux qu'on a choisis, hein, qui sont écrits sur des cartes, à la mise en place. Mais au fur et à mesure, les joueurs vont pouvoir influencer ces probabilités, et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est la quatrième phase du tour de jeu, hein, parce que les deux premières, elles sont vraiment fatales, hein, contre. Voilà, donc on jette le dé, on avance les chevaux, on fait l'aspiration, on n'a pas de questions à se poser, c'est comme ça. Et donc, quatrième phase du tour de jeu, va y avoir un choix qui, lui, va être individuel à faire. Et c'est ici que l'ordre du tour est important, car. Ça se fait parmi 5 actions possibles, et il y a certaines actions où si on les fait, bah le joueur suivant ne pourra pas les faire, ou n'aura pas à les faire. Parce qu'il y a certaines actions qui vont être bénéfiques pour l'ensemble du groupe, et certaines qui vont être purement individuelles. Donc la première action, l'action dont on se doute évidemment depuis le départ, c'est qu'on va pouvoir parier, hein, c'est la base de toute course de chevaux. On peut utiliser une partie de son argent, donc de ses points, je rappelle, pour miser sur le cheval actif de ce tour. On n'a pas le choix du cheval sur lequel on peut miser. C'est uniquement celui du D8. Voilà. Donc si vraiment on veut miser sur ce cheval-là, bah faut pas louper le coche. Parce que bah peut-être que le D8, il ne nous permettra pas de retrouver cette valeur de cheval plus tard, et que c'est peut-être la seule fois où on pourra miser dessus. Et quand on mise sur un cheval, on peut miser jusqu'à 3$ maxi pour ce tour. On pourra miser de nouveau jusqu'à 3$ à un autre tour, mais pas plus que 3$. Je pense que ça, c'est une mécanique qui est faite pour pas trop péter le jeu, ou bah quand t'es proche de la fin, tu commences à avoir les idées claires sur quel est le cheval qui va gagner, et ça permet que quelqu'un ne fasse pas all-in sur ce cheval-là.
Qui est plus qu'à quelques cases de l'arrivée, que tu sens que c'est lui qui va gagner,
Ouais,
oui, clairement.
voilà.
Et puis faut pas oublier qu'on est dans les années 30, $3, c'est énorme.
Ah oui, peut-être aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est
Bah
vrai.
quand tu vois que dans le jeu tu peux acheter un cheval pour
Ah
4 $,
oui. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'ai toujours un peu vilipendé les jeux qui te disent, bah voilà, là, telle action, c'est 1 million de dollars, là, c'est 3 millions de dollars. Mais en fait, t'as rien en dessous d'1 million de dollars. Donc, tu te dis, bah,
C'est ça. Oui.
pourquoi s'être pris la tête à mettre autant de zéros sur les cartes, sur les billets et tout ça, pour finalement, t'enlèves tout ça et ça revient au même. Bon, voilà.
Pourquoi Pikachu il a une force de 50 000? C'est la plus faible
Ex
du jeu. Bah oui,
exactement.
forcément. Oui, on est
C'est
d'accord.
pareil, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, comme pour tout pari, au début de la course, bah, c'est difficile de savoir si ton cheval il va finir dans les premiers ou non, hein, même si on l'a vu, bah, le cheval 1 a plus de probabilité d'avancer souvent, etc. Donc il faut voir si on saisit l'occasion. Donc souvent, on va pas forcément parier au départ, on va attendre un petit peu avant de commencer à parier sur des chevaux, mais attention, si on attend trop, bah, peut-être qu'on pourra plus y revenir. Le parcours contient 15 cases. C'est pas non plus énorme, hein. Le dé qui fait le déplacement principal, il va jusqu'à 3, hein, donc ça peut quand même aller très vite.
Oui, excuse-moi. Oui, quelques déplacements à 3 plus quelques aspirations. T'as vite fait d'avancer en rapidement de 5-6 cases en 2 ou 3 tours, oui.
Exactement, exactement. Et en plus, on a interdiction de parier dès lors qu'un cheval est sur l'une des 4 dernières cases. Alors, exception faite des chevaux pour lesquels le joueur a investi dans le casque du jockey, donc c'est une action possible à son tour. Et d'ailleurs, j'en parle tout de suite. Donc, c'est une deuxième action possible, on va dire. Donc, on consacre son tour uniquement à ça. Donc, on achète un casque. Alors, je dis achat, mais l'achat est gratuit, hein. En fait, c'est quoi? C'est on vient cocher sur le cheval actif du tour, hein. Toujours basé sur le D8, hein, qui nous a donné un numéro. Et donc on décide de quelque part de passer son tour, mais on va cocher le casque, ce qui nous permettra de parier sur ce cheval jusqu'à ce qu'il dépasse la ligne d'arrivée. Évidemment, quand un cheval a passé la ligne d'arrivée, on ne peut plus du tout parier dessus, hein. Faut bien que ça s'arrête à un moment. Donc ça, c'est l'action casque. Troisième action possible, qui est un peu dans l'esprit aussi du casque, c'est d'influencer les probabilités des déplacements secondaires. Donc là, on va rebattre un peu les cartes en cochant sur des chevaux, des aspirations pour d'autres chevaux en déplacement secondaire. Donc ça, c'est l'action qui s'appelle jersey, hein. Donc en fait, on va acheter la veste en jersey du cheval actif du tour, enfin du jockey qui est sur le cheval actif du tour. Donc comme le casque, hein, l'action est gratuite, on vient juste cocher une case sur son plateau joueur. Et ça, la case jersey, elle est cochée sur son plateau joueur, alors que l'aspiration qu'on va cocher sur une carte cheval, elle va être commune à tout le monde. Donc si, par exemple, on souhaite, parce que, par exemple, on a acheté le cheval numéro 8, donc ça c'est l'action que je vais décrire après. On a envie qu'il gagne, on a envie qu'il avance plus vite. Comme c'est le numéro 8, il a peu de cas, voire aucun, je ne sais plus, de cas où il bénéficie de l'aspiration d'un autre cheval. Donc là, avec l'achat de. Enfin, avec l'action jersey, on va pouvoir cocher le cheval 8 sur une autre carte cheval. Et donc, qui fait que bah, il va pouvoir avancer un petit peu plus souvent. Voilà, donc
Voilà,
c'est.
tu fais monter ses probabilités et ses
Exactement.
cotes.
Exactement. Alors, sa cote à la fin ne change pas. Sa cote, justement, du cheval 8 est très élevée. Mais par contre, la probabilité qu'il avance va avancer, va augmenter sans remettre en cause sa cote de fin de partie, qui, elle, est. Bon, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu bizarre, mais elle est gravée dans le marbre. À chaque partie, c'est les mêmes cotes pour chaque cheval. Voilà. On peut pas les faire
Non, mais
varier.
alors je voudrais pas dire je suis pas turfiste, hein, mais je crois que je suis pas sûr que les codes changent une fois que le départ a été donné, tu vois. Je voudrais pas dire de bêtises,
Oui, c'est pas
mais.
faux, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui,
Donc
finalement.
bon, c'est peut-être pour ça. Ou
Oui.
peut-être que l'auteur s'est dit, oh, ça aurait été compliqué de recalculer les cotes à la volée à chaque action.
Ouais.
Voilà.
Pas bête, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, quatrième action. Donc, celle-ci, elle n'est pas gratuite du tout, hein. C'est carrément l'achat d'un cheval. Donc, cette fois, on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on était simple parieur, on était dans les gradins comme ça. Et puis, alors là, on devient propriétaire d'une bête, hein. Donc, on passe au barreau de chaise et au chapeau de cow-boy. Ça y est. Donc, l'investissement, c'est important. C'est pour cela qu'il est assez rare d'acheter plus qu'un seul cheval, parce que notre pécule de départ, voilà, il va souvent servir à acheter un cheval assez rapidement. Premier arrivé, premier servi, évidemment, hein, il n'y a qu'un seul propriétaire de chaque cheval. Donc, à chaque tour de jeu, le seul cheval que l'on peut acheter, encore une fois, c'est le cheval actif du tour, donc c'est celui qui est indiqué par le D8. Il n'est pas possible de l'acheter s'il est déjà la propriété de quelqu'un d'autre. On ne peut pas racheter un cheval à quelqu'un. Hein. S'il l'a acheté avant soi, au même tour, bah, c'est cuit. Hein. Donc voilà, d'où l'ordre du tour qui a quand même une certaine importance. L'ordre du tour, il est basiquement choisi au hasard pour le premier tour, et puis après ça passe au voisin de gauche. Là-dessus, il n'y a pas de logique de je fais telle action pour prendre. Le premier joueur, le jeton premier joueur au prochain tour. Il n'y a pas cette mécanique-là. Voilà, donc acheter un cheval, bah alors là, c'est l'assurance de gagner vraiment beaucoup d'argent s'il finit dans le tiercé. S'il finit pas dans le tiercé, bah, il rapportera pas d'argent, hein, il nous en fera perdre. Mais il y a un autre effet aussi à acheter un cheval, c'est que chaque cheval a un pouvoir spécial. Alors c'est soit one shot, hein, comme une action gratuite supplémentaire lorsqu'on l'achète, soit c'est un effet permanent, comme gagner 2 $ à chaque tour où ce cheval va être le joueur actif. Voilà. Donc ça nous donne un petit bonus. Donc c'est aussi pour ça qu'on a plutôt intérêt à investir assez rapidement dans un cheval. Problème, c'est que l'argent qui a été investi dans le cheval, ben, on va plus pouvoir l'utiliser pour parier sur ce cheval ou sur un autre cheval, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, faut bien doser son argent. On n'en a pas de trop, hein. Voilà. Donc, on a la possibilité d'en récupérer un petit peu au cours de la partie. Et c'est justement, alors, hors effet des chevaux, mais c'est justement grâce à la cinquième action qui est possible. C'est sans doute celle qui est la moins thématique, mais la plus agaçante, hein, c'est de cocher une case dans un tableau de 4 par 4 que l'on a sur son plateau joueur. Alors, c'est un plateau qui comporte deux fois le chiffre 1, deux fois le chiffre 2, deux fois, voilà, jusqu'à 8, évidemment, comme les 8 chevaux. Et je te le donne en 1000, on ne peut cocher qu'une case du numéro du cheval actif. Donc, toujours le numéro qui est indiqué par ce foutu D8, qui contraint, voilà, qui contraint la réalisation de chacune de nos actions. Alors, on a pour toute la partie, chaque joueur a quand même 3 jokers qu'il peut décider d'activer, et en fait, ça transforme, enfin, virtuellement en fait, ça transforme même pour soi-même uniquement la valeur du D8 en la valeur qu'on veut. Donc ça permet de faire sauter cette contrainte 3 fois pour un même joueur dans la partie. Et donc pour cette action de complétion du tableau de 4x4, bah, quand une ligne ou une colonne est terminée, on récupère un bonus. Alors parmi une liste, hein, chaque bonus ne peut être récupéré qu'une fois, mais il y a plusieurs fois, certains bonus sont en plusieurs exemplaires, comme le fait de récupérer 7$, hein, de gagner 7$, on l'a en 3 exemplaires. On a l'action aussi de bénéficier d'un pari gratuit de 3$ sur n'importe quel cheval. Voilà. Mais le plus drôle, ce sont les effets sur la position des chevaux, puisqu'on peut donner un bonus d'avancement immédiat à un ou plusieurs chevaux, mais aussi, et alors là c'est pas du tout thématique, hein, on peut faire reculer des chevaux. Alors là, ça c'est très game changer, hein. Et alors là on va révéler au grand jour les chouineurs qui pensaient avoir misé sur le bon cheval qui était en tête, et alors là on peut les faire reculer, et si on est plusieurs joueurs à la table, c'est là où ça peut... Ouais, c'est assez intéressant d'être à plusieurs joueurs, parce qu'on peut clairement s'acharner à plusieurs sur un ou plusieurs mêmes chevaux, voire contrer l'action qui vient d'être faite par un joueur sur voilà, du recul de chevaux. C'est là où l'ambiance arrive, hein. Je sais pas toi, à combien tu y as joué, Kurt, mais...
On y a joué à deux et on n'a pas utilisé cette action-là. On a assez peu interagi l'un sur on a assez peu interagi l'un sur l'autre. Et juste, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, malgré le fait que je sois très content que les effets de cette grille soient là, j'ai pas compris thématiquement ce que ça venait foutre ici. C'est vrai que je me suis dit, tout le reste, c'est quelque part logique. Plus ou moins, on sponsorise les chevaux, on achète les chevaux, on parie sur les chevaux, bon, ça colle, mais cette grille-là et ses résultats, est-ce parce que j'ai coché 1, 2, 3, je peux gagner 7$? Je sais pas. Bon.
Oui, oui. Non, moi non plus, hein, j'ai pas trouvé de... Mais c'est un élément de game design, finalement, que moi j'ai trouvé intéressant pour l'ambiance, justement, et la possibilité de faire reculer les chevaux. Alors, je sais pas, moi j'ai pas d'expérience, là, sur les hippodromes et tout ça, mais je crois pas que les chevaux puissent se cabrer et faire marche arrière en plein milieu d'un hippodrome, j'ai du mal à l'imaginer. Donc, en tout cas, dans ce jeu, c'est possible. Voilà, même jusqu'à 3 cases, hein, y a une action qui est jusqu'à 3 cases. Donc quand on est plusieurs joueurs, on peut avoir cette même action qui se déclenche plusieurs fois finalement dans la partie, puisque c'est contraint par joueur. Et ça peut complètement changer l'ordre des chevaux, donc nous faire pleurer sur les chevaux qu'on avait misés, toutes les cartes sont rebattues, le cheval 8 qui n'avait pas décollé depuis le début, d'un seul coup il se retrouve à être... à 6 cases avant la fin, personne n'avait misé dessus, bref, c'est... Voilà, ça peut rebattre vraiment, vraiment les cartes, quoi.
Clairement.
Donc j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. Et donc voilà, une fois qu'on a choisi son action parmi 5, il y en a certaines, même on peut presque, quand on a l'habitude aussi, on peut presque les faire... en simultané, pour gagner un peu de temps quand il y a beaucoup de joueurs, acheter un casque, acheter un jersey... voilà, ça peut se décider. Après, bon, quelle case on va cocher sur la carte cheval pour l'aspiration, ou là, plus important encore, si on achète un cheval, ça, il faut bien respecter l'ordre du tour. Ça, c'est vraiment important. Mais il y a d'autres choses. Ou même faire sa petite croix dans son tableau de 4x4 pour gagner 7$. On peut se le faire tout seul dans son coin. Si on se fait confiance, voilà, ça accélère quand même le temps de jeu. Si on est
oui, parce qu'il y a assez peu à part l'achat du cheval, c'est vraiment la seule chose qui va avoir un impact sur le, parce que même le déplacement des chevaux, vu qu'on n'a pas le droit de faire franchir la ligne d'arrivée sur une action bonus, ça va pas changer fondamentalement le, ça à la rigueur on peut le faire, Ah si, oui, à la rigueur, le seul truc que je vois, c'est si moi je décide de le faire en premier et que ça colle le cheval à la ligne d'arrivée, ça sert à rien que quelqu'un d'autre le fasse, il bougera pas plus. Mais c'est tout en fait. Voilà. Ça va pas être c'est pas révolu oui, c'est pas révolutionnaire. Comme tu dis, cette phase-là, on a intérêt à la faire tous plus ou moins ensemble. Ça fera gagner du temps sur le jeu.
Ouais, il y a l'action aussi, Jersey, là, de changer les probabilités sur les aspirations des chevaux, parce que par exemple, on peut être tenté de la faire parce qu'on veut que le cheval sur lequel on a parié bah, avance plus vite, mais finalement, si le joueur qui joue juste avant nous bah, le
Oui.
fait pour nous,
Oui,
parce que
bien sûr.
ça
Oui,
va avoir un
voilà.
intérêt collectif, du coup,
Oui.
autant pas le faire, quoi. De toute façon, on peut le faire qu'une fois par cheval.
Non, on peut pas. Oui, enfin, on peut le 8 au final peut être coché sur tous les autres chevaux, quelque part. Donc
Oui, mais comme on ne peut cocher que sur la carte qui correspond au cheval du actif de ce tour-là, donc si c'est par exemple le dé a indiqué cheval 8, on va pouvoir aller cocher un cheval, n'importe lequel pour l'aspiration, sur la carte du cheval numéro 8. Mais si nous, on voulait aller cocher par exemple le cheval numéro 6 pour l'aspiration sur la carte du cheval numéro 8, et que le joueur d'avant nous, il fait exactement ça, en fait, comme on peut mettre qu'une seule croix sur le cheval numéro 6 pour l'aspiration de la carte du cheval numéro 8. C'est un petit peu complexe à expliquer, mais en fait, quand on a le matériel sous.
Non mais je crois qu'on l'a mal joué. Eh ben je vais te dire, je crois que nous l'avons mal joué.
Ah,
Je
d'accord.
crois que nous avons fait l'inverse. En fait, lorsque c'est le cheval 6 qui... Lorsque le dé disait 6
Oui.
et qu'on cochait le Gervais du 6...
Ah non, il faut que tu coches sur la carte 6
Ah...
le cheval que tu souhaites. Mais c'est pas le cheval 6 que tu vas cocher quelque part.
Oui, enfin, en même temps, de toute façon, le Jersey étant coché, on peut pas le recocher. Donc ah bah non, mais on a dû se tromper, tu vois. Bon.
Ah d'accord, ok.
Bon, ça n'a pas changé
Ouais.
la phase du jeu, mais...
Non, 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 non. Bon voilà, en tout cas pour les grandes lignes des règles. Alors moi, ce jeu, je sais pas toi, mais moi je suis rentré dedans tout de suite. C'était clair, c'était fluide. Bon, j'ai eu la chance qu'on nous a bien expliqué les règles, mais. Voilà, tout de suite on voyait où le jeu voulait nous amener, comment il fallait un petit peu construire son jeu, ce à quoi il fallait faire attention. Alors ce qu'on a découvert au fur et à mesure de la partie, bien sûr, c'est les pouvoirs des chevaux. Mais les pouvoirs, ils se comprennent vraiment très, très simplement, hein. C'est pas des
Ah
trucs trop,
oui.
trop tordus. En tout cas, moi j'ai joué qu'avec la série de base des chevaux. J'en reparlerai, mais du coup, il y a d'autres séries de chevaux qui sont proposées dans la boîte pour avoir de la rejouabilité. En tout cas, voilà, c'est assez fluide, c'est stressant, parce que bah, faut faire le bon choix et t'es toujours tiraillé entre bah, dépenser ton argent, prendre un casse, prendre un jersey. Peut-être que cette action-là, tu pourras pas la refaire plus tard. Est-ce que je parie? Est-ce que j'achète? Est-ce que. Voilà, dès la première partie, t'es dedans. Hein. Au bout d'un moment, je crois que ce jeu, faut y aller à l'instinct, à l'intuition. Alors, il y a ceux qui vont calculer les probas, hein, mais c'est pas si évident que ça, parce que c'est bah, c'est un calcul finalement en deux bandes, hein, qui est basé sur la fréquence de déplacement secondaire de tel ou tel cheval, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce qu'on essayait d'expliquer tout à l'heure. Mais en même temps, ce déplacement, il sera que de une case, alors que le cheval actif, lui, quand on l'obtient avec le D8, et avec l'autre dé, bah, il peut potentiellement avancer de 3 cases. Donc il ne faut pas non plus baser toute sa stratégie sur la probabilité que son cheval soit aspiré par d'autres, parce que bah, si par exemple le 8, qui est peu souvent aspiré, mais il sort souvent sur le D8 et avec des déplacements de 3 cases, bah, il va gagner. Et puis c'est tout. Donc faut pas rentrer, à mon avis, trop dans le calculatoire sur ce genre de jeu. Il faut se laisser un petit peu aller. Cette tension entre choisir l'action casque pour miser le cheval pour plus tard, miser dessus pour tout de suite, voilà, acheter un nouveau cheval avec son argent, bien parier sur lui, sur celui dont on sent qu'il va arriver devant, à moins qu'il faille finalement plutôt garder son argent pour avoir des points en fin de partie. Bon, bref, il y a plein de choix, ils sont terribles. Voilà, analysis, paralysis, quand tu nous tiens. Ceux qui sont pas prêts, voilà, à faire cette petite lâcher prise, ça risque de ne pas plaire. Voilà. Ceux qui aiment bien tout calculer, retourner jouer à Projet Gaïa, et puis c'est tout. Hein. Et donc finalement, J'arrive maintenant à raccrocher le titre Long Shot, qui maintenant que je sais ce que ça veut dire, que j'ai joué au jeu, et ben finalement c'est pas si mal trouvé, parce que il y a quand même beaucoup de hasard, et voilà, et la table peut être retournée à tout moment, ce qui est, alors c'est pas du vrai argent, alors faut qu'on y aille, voilà, faut qu'on écoute son intuition, faut y aller, comme les courses finalement, les courses hippiques, moi je suis toujours, j'ai jamais joué hein, aux courses hippiques, en tout cas pas le PMU et tout ça. Je suis déjà allé dans un hippodrome en voir, et je me suis toujours dit, mais finalement les chevaux, bah ils ont des capacités physiques et tout ça, c'est un peu comme des sportifs. Donc on sait, bah quels sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats, quels sont ceux qui courent le plus vite et tout ça. J'ai envie de dire, si tu cours vite un jour, tu cours vite le lendemain. Enfin, je sais pas, j'y connais rien en cheval, mais souvent les grands sportifs, c'est un peu ça. Tu te doutes bien que bah il va faire de bons résultats, à la suite.
T'as plutôt intérêt à parier sur Usain Bolt que sur le tocard du coin, c'est sûr, oui.
Ah
Bah
voilà,
oui.
c'est ça. Et pourtant, il y a quand même une dimension hasard, puisque c'est quand même un jeu de hasard. C'est considéré comme un jeu de hasard, les courses hippiques. Donc voilà, ça m'a toujours paru étrange, ça. Et c'est cette sensation, on la retrouve, je trouve, dans Long Shot, le jeu de dés. Voilà, c'est vraiment bien rendu. Et c'est moins frénétique que dans Ready Set Bet, parce qu'il n'y a pas de notion de temps réel. Alors, dans Ready Set Bet, il y avait deux modes, hein. Moi, j'avais plutôt joué au mode où c'est l'application qui te fait
Oui.
le tirage. Donc là, ça avance tout seul, quoi. Sinon, je crois qu'il y a le mode où c'est DD aussi, de mon souvenir. Donc là, c'est plus posé. Enfin, je sais plus très bien, mais voilà.
Ça doit dépendre de plus poser, ça doit dépendre de la personne qui lance les dés, qui décide de mettre l'ambiance ou pas.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je saurais pas te
C'est
dire.
ça. J'ai un vague souvenir comme ça. En tout cas, là, c'est vraiment plus posé. Comme long shot, le jeu de dés, il n'y a pas de stress dû au jeu en tant que tel. Il y a un stress dû au choix qui est à faire, mais pas le jeu qui nous met un stress. Donc au niveau rejouabilité, bah c'est assez prometteur, je trouve, avec trois séries de 8 chevaux qui sont fournis. Donc moi j'ai joué que avec la série de base. Probablement que toi aussi, Kurtz,
Oui.
si t'as fait qu'une partie, voilà, c'est ce qui était proposé. Donc j'ai pas lu les pouvoirs des autres chevaux, je les ai pas pratiqués, mais ça peut amener à une certaine rejouabilité. On peut mixer aussi, hein. Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre le cheval numéro 3 de la deuxième série, plus le cheval numéro 2 de la troisième, le cheval numéro 1 de la première, etc., etc. Tout est possible. Alors je laisse le soin au plus matheux de nos auditeurs, et il y en a, hein, confère le commentaire de la dernière émission, de calculer le nombre de possibilités offertes comme mise en place de départ avec voilà ces trois séries de 8 chevaux. Je suis allé voir aussi sur le site internet de l'éditeur auteur, hein, et donc il y a des mini-extensions de proposées avec d'autres chevaux et puis aussi des cartes événements. Alors j'ai l'impression, voilà, c'est un truc que tu retournes à chaque tour de jeu et qui a un effet collectif, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une mécanique qui n'est pas du tout présente dans la boîte de jeu de la version française. Alors peut-être que ça annonce une extension future, peut-être que ça sera localisé aussi. Je ne sais pas. En tout cas, l'auteur, Chris Andy, après avoir fait Long Shot, après avoir fait Win, après avoir fait Long Shot le jeu de dés, bah, il a encore des idées, hein, pour pousser encore plus loin son jeu. Il y a un mode solo, donc comme je disais au début, donc j'ai lu un petit peu la règle, on joue contre un automa qui dispose d'une grille d'action en fait, et il va faire l'action qui correspond à la combinaison des deux dés
Ah oui.
qui ont été tirés. Voilà, donc on regarde en colonne, en ligne. Voilà, il y a le dé vert en colonne, le dé multicolore, le dé 8 en ligne. On regarde où ça croise et puis on regarde l'action que fait l'automa. Alors ça me semble pas fou, hein, mais finalement c'est pas très grave parce que l'essentiel dans ce jeu, c'est quand même de voir avancer les petits chevaux en bois sur la piste et puis
Exactement.
d'essayer d'imaginer qui va gagner, hein. On est d'accord. Puis on va pas se mentir, on se met facilement à encourager ces petits meeples en bois, hein, sur le plateau. Bien sûr que c'est débile, mais si vous venez à tester Long Shot, je suis sûr que vous y viendrez. Et alors si vous retenez de peur d'être ridicule, hein, même si le ridicule ne tue pas, bien sûr, le mode solo, c'est un super exutoire. on peut se retrouver avec sa petite, en face de son petit plateau en train de dire allez, allez, le 3, allez, vas-y, vas-y. Et puis on jette le dé et puis bah manque de bol, bah ça va pas faire avancer nos chevaux. Ou alors on va être super content. Oui, oui, c'est le 3, c'est le 3. Nous, c'est vraiment, vraiment ce qui s'est ressenti à la table alors qu'on jette un malheureux petit dé et on voit des petits meeples avancer sur une piste. Mais franchement, la sensation était là. En plus, le plateau, il est, bah, ça représente un hippodrome. Donc, quand on tourne autour d'une piste, comme une piste d'athlétisme aussi, comme c'est rond, bah, du coup, à l'intérieur des virages, bah, il y a moins de distance. Donc, on peut dire, on prend la corde et tout. Donc, on s'amusait aussi à replacer les chevaux. Tu vois, celui qui a l'air d'avancer le plus vite, on le replace du côté de la corde. C'est complètement débile. Hein, c'est purement roleplay, entre guillemets. Hein, c'est pas du tout...
Ouais, voilà. mais c'est de la mise en scène, c'est important.
Voilà, c'est de la mise en scène, voilà, c'est ça le mot que je cherchais exactement. Parce que les cases sont un peu en triangle, comme ça, dans le virage. Donc, on peut, et puis voilà, bah, les plus talentueux en mise en scène pourront évidemment en rajouter des caisses là-dessus. Faire augmenter la tension autour de la table, mettre la pression, attention, t'as pas misé sur un tel, regarde, il avance vite et tout, vite, faut parier tout sur lui, voilà, ce genre de choses. Donc ça peut ouvrir plein de possibilités de bonne ambiance et de bons moments, ce jeu-là, je trouve. Voilà, quelques petites bricoles avant de refaire la fiche signalétique sur ce jeu. Sur le matériel, moi j'ai toujours un peu la crainte que ces feutres là, c'est les feutres blancs avec le capuchon, avec la petite mousse là pour effacer, ça tienne pas sur la durée. Bon, à voir. En tout cas, nous, il marchait très bien. Bon, au pire, ça se rachète, hein, si ça tombe en rade, si ça sèche trop. Le plateau de l'hippodrome, là, il est plié en quatre et il a un peu de mal à tenir bien à plat. Faut forcer un peu, tu sais, le plier un peu à l'inverse. Alors, ça, je sais qu'il y a des maniaques, hein, parmi nous, parmi les auditeurs, donc je le signale. C'est un peu dommage parce que ça rend instable, du coup, le placement des chevaux. C'est que quand le plateau est un peu plié, tu vois, les chevaux, ils peuvent plus facilement tomber. Bon, c'est quand même assez important, le placement des chevaux. Hein. Si ça commence à se mélanger, ça casse un peu le game. Donc là-dessus, je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Surtout que des plateaux qui tiennent bien en place, on sait en faire, hein, aujourd'hui. Je trouve que c'était un petit peu dommage. Voilà. Après, pour les illustrations, alors moi, je ne saurais pas trop décrire le style, hein, aussi bien qu'Elodie, c'est sûr. Hein, mais avec mes mots, je dirais que c'est assez anguleux. Pas beaucoup de rondeur dans le design, je trouve ça donne le côté nerveux, le côté tendu, ça me déplaît pas et je trouve que ça correspond assez bien au jeu. Et si la pression est trop forte, bah suffit de regarder bien au milieu du plateau, je sais pas si t'avais fait gaffe, y a un petit plan d'eau, une petite fontaine, y a trois canards qui regardent la course.
J'avais pas fait gaffe à ça. Ah oui, effectivement, oui.
C'est au milieu des chevaux. Et moi, je dis qu'il n'y a rien de plus apaisant. Si jamais on a un moment de, voilà, où on transpire trop, eh ben, on peut toujours regarder le milieu du plateau et on reprend ses esprits. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant que je refasse la petite fiche.
Bah, moi, je voulais dire que au final, quand on réduit le jeu à son minimum de ce qu'il est, c'est jamais qu'un roll and write.
Oui.
Parce que bon, les petits chevaux, à la rigueur, ils seraient pas là, on ferait des croix sur la piste, ce serait la même.
Tout à fait.
Donc c'est un roll and write. Mais moi, j'aime bien les roll and write, contrairement à Cyrus, pour pas le citer. Coucou Cyrus. Non, moi j'aime beaucoup ça, les roll and ride, j'en ai fait pas mal. Autant des abstraits, tu sais, genre, très futés, encore, etc. Ou des coins thèmes. Mais souvent, ce coin thème, je suis déçu. Tu sais, Corinth ou Seven Wonders, etc. Mais là, je me suis pris au jeu. J'ai quasiment oublié le roll and write. Alors que pourtant, comme je disais, ça reste vraiment un roll and write. Ouais. On jette un dé, on coche quelque chose quelque part.
Carrément.
Soit on fait une petite grille, soit on coche un truc, soit on a un joker, soit on coche un pari. Enfin, tu vois, vraiment. Et là, vraiment, je me suis pris au jeu. J'ai apprécié mon expérience. J'ai trouvé ça vachement chouette. Et puis quand le cheval que j'ai acheté, il a fini quatrième, bah ça m'a agacé, tu vois, vraiment, je...
Oui.
Ouais. Ah non, non, bah, super, une super expérience, un truc vraiment plaisant, quoi, pour vraiment, et une surprise qui vient de nulle part, en fait. Pouf, on l'attendait pas, on le connaissait pas. Et une super découverte,
Ouais.
vraiment chouette moment, quoi. Alors là, on n'y a joué qu'à deux.
Ouais.
Alors, je serais vraiment curieux d'y jouer à 7-8 pour voir, pour qu'il y ait vraiment 7-8. Je suis persuadé que chacun s'achète un cheval, ou si t'as
Oui.
pas le temps, hop, tu t'en fais piquer un. Ah, il en a acheté deux, quelle horreur! Ben,
Ouais.
tu vois, vraiment, il y a un truc qui se fait autour de la table, et celui qui en a acheté deux, je peux te dire qu'à mon avis, il va s'en bouffer de la marche arrière. Non, non, vraiment, ça va
Exactement.
être, ah, bah, évidemment,
C'est clair.
quand on voit ce que gagne le premier, non, non, mais vraiment, ouais, une super chouette expérience, quoi, vraiment plaisante.
Ouais, bon bah très bien, bon bah partagé, alors du coup, avis positif partagé, super, merci pour ces compléments. Donc la petite fiche signalétique pour conclure, eh bien c'était un jeu de Chris Handy, illustré par Clao Souza, édité chez Perplexed et localisé en France par Matago, pour 1 à 8 joueurs ou joueuses. Âge recommandé, donc 14 ans, mais là on en convient tous les deux qu'à 12 et même voire 10 ans, c'est largement jouable. Des parties de 25 minutes environ, fabriquées en Chine, dispo à la caverne bientôt pour 27,90 €. Bien, alors maintenant c'est à toi pour un jeu beaucoup plus sombre, Kurtz.
Un peu plus sombre, disons. Alors, je vais vous parler de Carnival of Sins. Donc, c'est un jeu que j'avais repéré l'année dernière du côté d'Essen, qui m'avait beaucoup fâché parce qu'il était sold out. Donc, j'ai pas pu rentrer avec. C'est un jeu qu'entre-temps, j'ai réussi à acheter en VO avant sa sortie française. On l'a revu récemment à Cannes. Et là, c'est la version française est sortie en boutique, elle est disponible. Alors, c'est typiquement le jeu que tu vois passer et que tu te dis, ça a l'air sympa, c'est joli, sans forcément te dire qu'il y a des idées malignes derrière le jeu. Alors, et toi, à quel moment tu l'as découvert, Peter?
Eh ben moi je l'ai découvert là quand il est sorti en VF le mois dernier je crois. Alors je me demande si c'est pas quelqu'un qui l'avait ramené de Cannes aussi, mais la version VF je crois était dispo à
Ouais.
Cannes. Et puis après j'y ai rejoué, il est sorti en boutique effectivement, je l'ai vu en boutique et puis j'y ai rejoué aussi voilà au bar à jouer. Donc là c'est le mois dernier hein, clairement que j'ai découvert.
Très bien. Donc, Carnival of Sin, c'est un jeu d'Alex Nogues, qui est illustré par Vicente Cifuentes. L'éditeur, c'est Trangis Game, et c'est localisé par Actarus Édition. Ça se joue de 2 à 5, à partir de 10 ans, bizarrement. Parce que pour le thème, on pourrait penser un peu plus, mais pour les mécaniques, 10 ans, ça passe. Je sais pas quoi en penser. Donc, les parties vont durer 10 à 20 minutes.
Oui.
Grand maximum. C'est fabriqué en Chine et c'est disponible chez notre partenaire La Caverne à 17,90 €. Alors, le principe, il est assez simple. On a tous 7 cartes en main et on a tous les mêmes cartes. Ces cartes représentent les 7 péchés capitaux. Je vais pas vous refaire la liste. Regardez le film si vous la voulez. On va jouer chacun une carte par manche et une seule. Et une fois que cette carte est jouée, elle ne revient plus. Donc dès le départ, on a tous les mêmes outils, mais on ne les utilise pas au même moment. Au centre de la table, il y a une grosse poignée de dés. Pour ceux qui font du jeu de rôle, il y a la totale. D6, D8, D10, D12, D20. À chaque tour, tous les dés vont être lancés et on choisit tous une carte de façon cachée. Chacun son tour, dans l'ordre du tour, on révèle la carte, on résout cette carte dans l'ordre du tour, et elles vont nous permettre de récupérer des dés, de modifier des valeurs, et parfois d'être un petit peu taquin et d'aller embêter les voisins. Et c'est super intéressant parce que justement, sur le papier, c'est très simple. Voilà, les règles, je viens de les dire quelque part. Tu regardes le jeu et tu te dis, ok, j'ai cette carte, je vais en jouer une par tour. Tranquille. Mais en pratique, il y a quand même un petit truc qui se met en place assez vite. C'est que t'as pas envie de jouer tes cartes n'importe quand. Parce que certaines cartes sont très fortes, mais seulement dans certaines situations. D'autres cartes sont plus sécures, plus sécurisées, mais elles ont moins d'impact. Alors typiquement, par exemple, la carte pour récupérer le plus gros dé, la gourmandise. Si tu la joues trop tôt, et qu'il n'y a que des valeurs moyennes au milieu de la table, bah tu vas récupérer un dé qui est bof, donc tu gaspilles une carte. Si t'attends trop, bah tu vas te faire piquer le bon dé, celui qui a une grosse valeur. Pas facile, hein. Du coup, tu te retrouves à faire des choix. Est-ce que je joue sécurisé maintenant? Est-ce que je tente un gros coup plus tard? Est-ce que je prends un petit gain? Ou est-ce que j'attends une meilleure opportunité? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras? Voilà, le jeu est super intéressant parce que la structure est hyper simple. Mais il y a des décisions qui dépendent vraiment du timing. Du timing, et évidemment, de ce que font les autres. Comme tout le monde a les mêmes cartes, et qu'elles sont jouées qu'une seule fois, là tu commences à te dire, ok, lui, il a déjà utilisé cette carte-là, donc il pourra pas me contrer là-dessus si je joue avant lui. Mais elle, il lui reste ça, donc si elle joue après moi, elle pourra venir m'embêter. Ah, là on commence à avoir un peu de relief. Alors est-ce que toi t'as ressenti comme ça, t'as ressenti quoi? T'as ressenti le côté timing du jeu, ou tu joues plutôt au feeling, bon allez, on verra bien ce qui se passe.
Ouais, non, je pense que le timing... Alors sur ma première partie, j'ai un peu fait à l'instinct, et clairement ça marche pas bien, je suis fait rouler dessus, j'ai pas compris, on m'a piqué les dés que je voulais, enfin bon bref, c'était... non, c'était pas bon, et effectivement, le fait de se souvenir de quelles sont les cartes qui ont été déjà jouées par les autres joueurs, moi je pense que c'est fondamental dans ce jeu, et il me semble, en tout cas nous on a joué comme ça, c'est-à-dire que les cartes qui ont déjà été jouées par les joueurs, après elles sont gardées par les joueurs mais face cachée, enfin le défaut c'est face cachée, donc il faut vraiment faire jouer sa mémoire, ce qui est mon gros défaut parmi d'autres, hein, mais c'est un énorme défaut que j'ai. Et en plus, quand tu joues avec beaucoup de joueurs, moi j'y ai joué à 6, j'y ai joué à 5, se souvenir, alors je sais que je suis pas fort en mémoire, mais quand même, ça devient quand même un petit peu coton au bout de la troisième, quatrième manche de se souvenir si un tel a déjà joué la carte qui lui permet de piquer le gros dé chez l'autre. C'est quand même sport, hein. Faut être bon, faut être observateur, faut arriver à trouver des moyens mnémotechniques, je pense, pour se dire, ah bah lui, voilà, ici il a déjà fait l'action gourmandise, donc là il pourra pas la refaire. Donc moi je peux y aller, je peux faire ça, parce que il y a des cartes qui peuvent se contrecarrer sur un même tour de jeu, quoi. Toi, en tu plus, vas prendre la gourmandise, t'es tout content, mais l'autre, il va faire l'action qui permet de piquer un dé chez le voisin, et il l'avait encore, cette carte, et donc, bing, il va te le prendre, parce que le dé que t'as chopé avec la gourmandise, certes, il est très élevé, donc t'as eu bien fait de faire la gourmandise à ce tour-ci, mais l'autre, bah du coup, il est encore plus gourmand que toi, donc il savait que t'allais faire la gourmandise, donc il attendait derrière, tranquillou, pour te piquer le dé. Sans utiliser sa carte gourmandise.
Ah, c'est ça, parce que l'ordre du tour est fondamental. Fondamental.
Ah oui. Ah ouais. Non, c'est beaucoup de frustration, hein, quand même,
c'est
ce jeu.
Oui, c'est clair. Et puis d'autant plus que l'ordre du tour est déterminé. En fait, le premier joueur change quasiment systématiquement. Il y a une carte qui permet de récupérer le premier tour.
Oui.
Mais si cette carte n'est pas jouée, c'est celui qui a fait le plus petit score au tour d'avant.
Oui.
Donc, mine de rien, d'être le premier joueur, c'est pas forcément si intéressant. Ou bien c'est super intéressant.
Oui.
C'est vraiment.
Tout à fait. Tout dépend du timing, de là où on en est dans la partie, les cartes qui sont déjà tombées. Et y a même un petit twist. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit twist. Là, t'en as pas parlé, mais enfin, peut-être que tu veux en parler du dé blanc. Du dé blanc, t'as peut-être parlé.
Je comptais pas le citer spécifiquement, mais vas-y, explique-nous le dé blanc.
Le petit twist du dé blanc, c'est-à-dire que si t'es le joueur qui a ramassé le moins de points, donc c'est-à-dire que les dés que tu as, bah c'est la plus petite valeur, la somme c'est la plus petite valeur, du coup tu remportes le dé blanc, qui lui est un dé 6, je crois, qui peut
c'est
monter
ça.
jusqu'à 6. Et donc imaginons qu'avec les dés noirs que t'avais chopé, donc les dés principaux dans le tour de la partie normale, bah t'avais réussi à avoir 2 points, et que quelqu'un d'autre avait 0 et que le dé blanc était de 6, et ben c'est ton collègue qui avait 0 qui va prendre le dé blanc, donc il va avoir 6 points, finalement il va avoir plus que toi qui t'étais décarcassé pour avoir tes 2 points avec le dé noir. Donc des fois t'as intérêt aussi à pas forcément avoir trop de points pour pouvoir bénéficier de l'avantage du dé blanc.
Exactement.
Donc il y a toute une toute une mécanique comme ça à voir. C'est du guessing, du double guessing, du triple guessing. Enfin, je sais pas comment on pourrait aller, mais c'est un jeu de guessing hein, pour moi, hein,
ah
clairement,
bah,
et de mémoire.
Absolument, hein. Absolument. Guessing
de
et mémoire.
Calcul, guessing, mémoire. Enfin, ça mélange plein de choses. Moi, ça me fait fumer le cerveau, hein, ce genre de jeu.
Et c'est vrai que ce dé blanc, si t'as eu le plus mauvais score, tu peux te faire passer. Si t'as pas eu le plus mauvais score, tu peux te faire passer devant par quelqu'un. Mais l'avantage, c'est que tu sais que tu marqueras au moins un point. Au moins un point. Tu peux jamais faire zéro. Bon, alors des fois, quand tu vois le joueur d'à côté qui a fait 28 et toi tu fais 1, bon, bah tu te dis, bah j'ai fait au moins un point.
Ouais. Ouais, puis il y a clairement, quand tu regardes ta fiche de score à la fin, tu vois qu'il y a des manches où tu as gagné beaucoup de points, parce qu'il y a des cartes, comme la gourmandise, là, des cartes qui vraiment vont faire en sorte que tu vas gagner beaucoup de points, et d'autres manches qui vont être plus des manches d'attente.
C'est ça.
Ou des manches d'opportuniste. Et chaque joueur doit se trouver son bon timing. Alors, moi, j'ai peut-être bien fait 3 parties qui étaient à chaque fois différentes, mais je me suis quand même demandé si, au bout d'un moment, je ne sais pas combien de parties tu as fait, mais si au bout d'un moment, il n'y avait pas une sorte de routine qui risquait de se mettre en place une fois que les joueurs sont bien, bien au fait de la mécanique et que finalement, l'ordre des cartes qui va être choisi va être toujours le même. Je sais pas si...
Ah, j'en suis pas là encore. Je sais pas. Après, ça va quand même beaucoup dépendre du lancer parce que sur un des 20, la plage, elle peut aller de 1 à 20 points. Donc, tu joues pas pareil en fonction de ta place et en fonction de ce que sortent les dés, tu vois. Donc, mais après, il y a peut-être des techniques des martingales. Mais moi, j'en suis pas là encore, effectivement. Mmh. Ouais.
Et pareil, si tu joues souvent avec les mêmes joueurs, peut-être surtout avec les enfants aussi, ça peut faire l'effet. Et imaginons justement que le D20, il indique 20. C'est le gamin, le premier joueur. Tu te dis, bon, bah, je sais qu'il est gourmand. Donc, il voit un D20. Il se dit, bah, c'est le plus fort. Donc, je vais le prendre. Donc, il va mettre sa gourmandise pour le prendre. Et toi, comme tu sais qu'il va le prendre, bah, derrière, tu as tout de suite la carte qui dit, bah, je vais prendre 2 dés. Et dont un qui peut venir d'un autre joueur. Et donc, tu vas lui reprendre ce D20 qui va être pour toi. Mais ça se trouve, le joueur qui est à ta gauche, là, qui est l'autre membre de ta famille, il sait que toi, tu vas faire ça. Donc, du coup, lui, derrière aussi, il va remettre sa carte qui permet de repiocher, de reprendre ton dé. Et donc, tu vois, c'est ce genre de routine qui peut-être... Qui m'inquiète un petit peu sur ce jeu-là, je sais pas
non plus.
En y jouant avec des mêmes personnes.
Oui, c'est possible. Non, c'est possible que, oui, bah, comme dans beaucoup de jeux, tu connais les joueurs, leur façon de jouer, il y a peut-être ce truc-là qui risque d'arriver, oui. Mmh.
Après, oui, une sorte d'ouverture, voilà, chercher le terme,
oui.
Comme aux échecs, là, une ouverture.
Oui. Après, tu disais jouer avec des enfants. Alors, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, à partir de 10 ans, je me posais la question du thème, quand même. On joue sur un jeu qui est basé sur les 7 péchés capitaux. Après, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à entendre autour de la table « Maman, c'est quoi la luxure ?» C'est à vous de voir. Après, vous pouvez toujours répondre que c'est quelqu'un qui aime collectionner les voitures de luxe. Hein. Ça pourra marcher pendant quelques temps. Mais le thème du jeu, si vous voulez, si vous avez vu Eyes Wide Shut, imaginez-vous ce genre de soirée, quoi. C'est... Bon. Après, les cartes sont soft, hein, quand même. Hein. C'est juste le thème qui fait que on interprète les péchés capitaux, quand même, quoi. Bon, après...
Et puis les dessins sont soft, hein.
Oui, les dessins sont soft. Oui. Sur la luxure, ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça. Et puis, bon.
Alors, un petit point sur les illustrations, peut-être, tu voulais faire.
Elles sont fantastiques. Ouais. Les cartes sont d'une beauté. Moi, je suis comme Elodie, dès que ça brille, je suis content. Les cartes ont un très beau format tarot. Elles sont grandes. Réécouter le jeu du mois que j'avais fait sur Présage, si vous voulez savoir ce que je pense de ce genre de cartes. Donc, slivez-les. Parce que vraiment, à force de les jouer, de les faire glisser, ça va abîmer la dorure et la beauté des cartes. Donc vraiment, des très très belles cartes avec des très belles illustrations.
Mmh. C'est un choix noir et or.
Noir, blanc et or. Ouais, vraiment magnifique. Mmh.
C'est pour ça que je disais au tout début que c'était un jeu assez sombre, quoi.
Clairement, oui. Oui.
Les cartes sont noires et de l'autre côté, au verso aussi, elles sont sombres.
Oui. Alors, je voudrais vous faire un petit pas de côté. Je voudrais vous parler d'un... C'est Flavien qui m'a fait remarquer, et effectivement, il a tout à fait raison, que le jeu Carnival of Sins fait penser un peu à King of 12, le roi des 12. Pas dans la forme, mais dans la logique. Dans le roi des 12, on a tout tous la même main de carte, on choisit en simultané, on révèle, et ça a un effet sur un dé. Bon, là, il n'y a pas le même nombre de dés, mais il y a ce feeling, il y a le côté lecture des autres, anticipation, timing, il a déjà joué cette carte. Quand je dis il, c'est il ou eux, ou elle. On pense que ça ne joue pas forcément à deux, hein, ça peut jouer à plusieurs. Et imaginez à plusieurs comment c'est. Alors moi, si je vais jouer cette carte, mais les autres, ils vont faire ça, lui, il a fait ça, elle a fait ça, il lui reste telle carte. Vous voyez, on est vraiment dans le même système que Carnival of Sins, où je sais ce que les autres peuvent faire, mais je sais pas quand ils vont le faire. Donc après, le roi des 12 est un peu plus contrôlé, un peu plus duel mental. Dans Carnival of Sims, on est quand même, il y a un sentiment plus chaotique, mais c'est beaucoup plus interactif, et le centre de la table, il est partagé. On joue tous avec les mêmes dés, contrairement au roi des 12. Ça te parle, toi, le roi des 12 ?
Non, de nom, j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais joué.
Ok,
non.
Bon.
Non. Pour le coup, mais par contre, ça me fait penser, oui, à pas mal de jeux où, comme ça, t'as une, je crois que c'est ça, les jeux de hand management, là, t'as une main de cartes, et puis finalement, tout le monde sait un peu les actions que tu vas finir par faire, mais personne ne sait quand est-ce que tu vas les faire, et qu'il faut un petit peu que tu intuites quand est-ce que ça va tomber. Ça me fait penser, voilà, le dernier Tajac que j'avais fait sur Not Alone, là, c'est un peu ça, la créature, elle sait les cartes lieux qui sont dans les mains des différents joueurs, mais elle sait pas quand est-ce qu'ils vont aller dans quel lieu.
Oui, après, moi, ça me fait penser à des jeux, tu sais, de genre Cardia, etc. Bon, là, qui se jouent strictement à deux. Mais voilà, c'est cette famille, c'est ce sentiment-là de jeu. Ce que le jeu propose vraiment, donc là je reviens à Carnival of Sins, c'est donc que je parlais de timing, donc tu as 7 cartes, tu sais que tu vas toutes les jouer, donc la vraie question c'est quand est-ce que je joue ça ? Parce que si la carte pour prendre le gros dé, la gourmandise, si tu la joues trop tôt, c'est pas forcément rentable, si tu la joues trop tard, il n'y a plus rien, et quand je dis trop tôt ou trop tard, ça peut être pendant la manche, en fonction de ta place autour de la table, mais ça peut aussi être pendant la partie. Donc c'est, voilà, faut savoir, faut peser. Alors toi, tu joues plutôt safe ou t'attends les bons moments ?
J'ai envie de dire que j'essaye d'apprendre de mes erreurs. J'ai pas l'impression d'avoir une seule fois bien joué pour l'instant. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je faisais des trucs, c'était pas la bonne stratégie. En tout cas, j'ai toujours fait des scores minables. Je comprends pas comment les autres arrivent, en fait, à bien jouer. Voilà, ce jeu, je ne l'ai pas encore maîtrisé encore, donc vaut mieux pas que je vous dise ma technique, parce que c'est pas la bonne.
C'est voilà. Pas la bonne, ok. Donc si vous voulez jouer, ne jouez pas comme Peter, très bien.
Non, voilà, exactement.
L'exemple à ne pas suivre, voilà, c'est pas...
Ouais,
c'est...
Il faut réfléchir, je crois qu'il faut réfléchir dans ce jeu, même si il a l'apparence d'un jeu simple. Il faut quand même réfléchir.
Effectivement.
Et je crois que j'ai oublié de le faire.
Donc, comme je disais, un jeu de timing, mais aussi un jeu de guessing. En léger, hein, mais bien présent. Tu regardes ce qui a déjà été joué. Enfin, quand je dis tu regardes, tu le vois plus au moment où c'est joué, mais tu regardes ce qui reste. Enfin, comme je disais, hein, faut faire jouer la mémoire. Et là, tu te dis, il peut plus faire ça, elle peut encore faire ça. Donc, moi, je peux tenter ça. Donc, ça reste fluide, mais c'est instinctif. Alors, pour toi, c'est lecture ou chaos ?
Moi, au bout d'un moment, comme je disais, comme ça fait trop fumer le cerveau, moi, je mise tout sur le chaos.
Tu mises tout sur le chaos. Ouais, t'es comme moi.
Là, au moins, voilà. Je sais pas si tu vas parler de la colère, mais voilà. Ouais, c'est bien fait, en fait, ça. C'est-à-dire que t'as une carte vraiment que quand t'en as marre, quand ton cerveau il fume trop, quand tu sais plus du tout, voilà, la colère. Et là, c'est bien thématique, je trouve.
Ah oui, c'est vrai que ça peut être la carte échappatoire pour.
Ah ouais. Moi, c'est ça. Ouais.
Mais moi, je suis comme toi, en fait. À un moment, j'ai pas la mémoire pour me souvenir de qui a joué quoi. J'ai un sentiment. Tu vois, je me dis de ce côté-là, ça doit être safe. Mais je suis pas sûr à 100%. Tu vois, c'est bon. Donc, on tente des trucs en espérant que ça passe.
Et ouais, voilà, c'est ça.
Ensuite, il y a un côté spatial. Il y a une vraie spatialité. Et ce qui est hyper intéressant, moi, que j'aime beaucoup, c'est que certaines cartes vont jouer sur la position des dés sur la table. Donc ça, c'est génial. C'est la paresse, qui est un de mes péchés préférés. La paresse, tu prends le dé qui est physiquement le plus proche de toi. Donc, ce qui fait que ta place à la table compte, la façon dont les dés tombent ou bien sont envoyés, compte. Alors, pour toi, ça, c'est un gadget ou c'est malin ?
Non, c'est bien, je trouve que c'est bien pensé, et puis ça va bien avec paresse, quoi.
C'est-à-dire que
bouger le bras, c'est tellement d'effort, quoi. Voilà. Donc, du coup, tu prends celui qui est le plus proche de toi. Non, je trouve que c'est rigolo, ouais.
Mais typiquement, tu vois, ça me fait vraiment me poser la question, qu'est-ce qui est venu le premier dans le jeu, la mécanique ou le thème? Parce que je trouve que la mécanique sur... il y a certaines mécaniques, quand je dis c'est une mécanique, une carte pour moi, là, dans ce typiquement, il y en a certaines qui sont un petit peu lambda,
Ouais.
mais il y en a certaines qui collent tellement, tellement au nom de la carte, la paresse, tu prends le dé le plus proche de toi, la gourmandise, tu prends le plus gros dé, que je viens me demander qui est vraiment arrivé en premier, tu vois.
Moi, je pense que c'est le thème, franchement.
Bah ouais, ce serait pas impossible. Bon, peut-être qu'on aura la réponse un jour. Après, il y a un petit côté adresse. Donc, si c'est toi le premier joueur, c'est toi qui lances les dés. Alors, il y a peut-être une petite façon de lancer les dés qui peut être intéressante ou pas. Ça, je sais pas, c'est très aléatoire. Mais il y a surtout il y a surtout une carte qui permet de physiquement agir sur les dés. C'est la fameuse colère dont tu nous parlais tout à l'heure, qui permet de prendre un dé, n'importe lequel, donc un dé qui a déjà été pris par quelqu'un ou pas, et de le relancer. Mais quand on le relance, on peut le relancer méchamment. On peut viser le dé de quelqu'un d'autre. Donc potentiellement, ça peut changer le score de 2 dés. Et surtout, si on fait sortir un dé de la table, on prend des points négatifs. Ce qui fait, bah tu vois, t'étais en colère, bah tu le payes. Je trouve que c'est super malin, et c'est un des moyens en plus d'embêter les autres par rapport à leur piquer les dés. Ça crée
Ouais.
des petits moments de tension, ça crée des retournements de situation absurdes, vraiment absurdes. Moi, j'ai trouvé ça génial. Quelqu'un qui avait fait un 18, tu lui piques son dé, tu le relances, ça lui fait un 19, et là, tu te dis, eh merde. Bon, bah, tant pis. Et puis ça peut mettre des petits coups de pression, hein. Le gars qui avait un 18 à qui tu prends le dé physiquement sur sa carte, il te regarde avec une petite goutte de sueur, mine de rien.
Ouais. Et puis même stratégiquement, j'ai envie de dire, dans le choix des dés qu'on prend au milieu de la table, bah, le dé 20, lui, il est plus facile de le faire rouler que le dé d'en dessous. Alors, je sais plus, des 12
12,
ou des machins.
oui.
Enfin, plus il y a de face, plus le dé il est roulant finalement. Donc, certes, tu vas prendre le dé 18, mais tu sais qu'il est vachement plus instable. Si quelqu'un vient, parce que tu peux aussi entrechoquer les dés là comme ça.
Ouais, bien
Donc
sûr.
tu peux venir avec l'autre, il peut prendre le dé 12 et venir taper ton dé 20, et bah tu vas pouvoir avoir un autre chiffre. Donc tu sais que c'est moins sécure de prendre un dé 20 vis-à-vis de la colère. Donc il y a
C'est
quand même
ça.
une petite dimension stratégique en plus du chaos.
Ah, et puis le D20, il est plus massif que les autres, il tient bien dans la main. Il donne envie d'être lancé, tu vois, vraiment,
Ah
c'est ouais. Ça, c'est ce côté, c'est hyper agréable, hyper plaisant, ouais. Et donc ça donne donc les tout ça mis bout à bout à la table, ça donne des parties rapides avec beaucoup de réactions quand même, parce que les gens vont, et puis de toute façon, une manche, c'est 1 minute à peine. À peine, on joue une carte, on prend un dé, le suivant joue une carte, il prend un dé, la suivante joue une carte, elle te prend un dé. Ah! Voilà. Il y a des plans qui s'effondrent. Ah! Le dé 20, il a fait 20, je vais le prendre, c'est génial. Et puis, bah, tant pis, tu le perds, évidemment. C'est
Le plus
classique.
long, c'est de compter les scores, presque.
Le plus long, c'est de compter les scores à la
Enfin, d'écrire les scores à la fin
Découvrir
d'une
les
manche.
scores à la fin de chaque manche, oui. Et donc chaque manche, c'est un mini affrontement, c'est presque une petite histoire où la paresse va s'opposer à la colère, qui va s'opposer à la luxure. C'est des tas de petits mini duels. T'as ressenti ça, toi, les mini duels?
Bah ouais,
Ouais.
clairement, il y a des cartes qui se répondent en fait, qui ont été construites, enfin les actions ont été construites pour justement contrer un tel ou un tel, donc presque de l'attaque-défense quoi. Je pense
Quasiment,
que
oui,
ça c'est
effectivement. Oui,
volontaire.
en fonction de comment les cartes sont jouées, c'est ça, ouais, clairement. Ouais. Moi, ce que j'aime vraiment dans le jeu, c'est qu'on part tous armes égales. On a tous les 7 mêmes cartes, mains identiques, mais l'usage va être différent. Donc ce mélange de guessing, d'interaction, de chaos, léger chaos. Les dés qui sont variés, c'est assez rare dans un jeu d'avoir cette variété de dés quand même, à part dans le jeu de rôle, évidemment. Et les dés sont très présents, ils sont Ils sont physiques, les dés. Ils sont là, ils sont sur la table. Vraiment, on le ressent. C'est pas juste un accessoire qui sert à dire que, bah, quasiment comme dans ton jeu où le dé il est bien, mais il physique. Voilà, c'est juste un dé. Là, physiquement, il sert à quelque chose. On le prend, on le pose sur sa carte. C'est lui qui nous dit combien de points on va marquer. Vraiment, ça rend l'ensemble tout très très vivant pour moi. Voilà, visuellement, ça fait vraiment un super effet. Ouais, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, bah, je dirais même que l'endroit où on vient déposer les dés ou les lancer, ça constitue le plateau de jeu, en fait.
C'est ça.
C'est notre table avec les dés dessus, bah, c'est ça le plateau, quoi.
C'est ça. Donc, clairement, après, le jeu, il a quelques limites. À deux joueurs, non, c'est pas intéressant. Il est pas clairement... De toute façon, à deux joueurs, ça va quasiment être du pain dans ta gueule. Bon, c'est pas comme vraiment à partir de trois. Et il faut monter au maximum de joueurs, c'est idéal. Je trouve le thème, donc comme je disais, les cartes sont très jolies, le thème est très sympa. Je trouve que le thème, bah, je le trouve pas plaqué, justement, comme on en discutait à l'instant. Je pense moi aussi que le thème est à la base du jeu, plutôt que la mécanique, et que la mécanique est venue après. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper plaisant. C'est un auteur qui s'est dit, tiens, les 7 péchés capitaux, comment ça, je pourrais faire des interactions entre les joueurs à ce niveau-là? Il y a un tout petit côté adresse, mais bon, ça c'est quasiment anecdotique, on va pas revenir dessus. Et puis ça reste léger, mine de rien, les parties elles durent 10, 20 minutes. Il y a le petit, bon, après faut savoir faire des petites additions, c'est pas compliqué. Et puis t'as envie d'y revenir. Moi franchement, souvent une partie ça me suffit pas. Je sais pas toi.
Si moi jusque là, bah je te dis comme je perds, comme je suis mauvais et oui, que bon. Ça me fait mal à la tête. Du coup, moi une partie, une dose par soirée, ça me suffit.
D'accord, ok. Ouais, non mais je comprends. Donc le petit truc pour moi en plus, c'est que bah on connaît toutes les cartes forcément, on les a dans la main, donc je connais exactement le jeu de mon adversaire qui connaît exactement mon jeu. Toutes les cartes vont être jouées. Elles vont être jouées une seule fois. Donc ça, c'est hyper agréable aussi. Donc il y a quand même il y a une vraie progression au sein de la partie. Il y a de l'anticipation, il y a de la lecture, il y a du timing. Ça reste léger, mais il y a un petit espace pour s'améliorer. Faut juste pas jouer comme Peter. Vous avez bien noté?
Ouais. Non mais je m'entraîne, mais hein, bientôt je jouerai bien. Hein.
J'en doute pas, championnat du monde bientôt.
Voilà.
Alors pour conclure, pour moi Carnival of Sin c'est un jeu qui est simple, qui est rapide, qui a des idées vraiment malignes, qui est accessible, qui est interactif, qui est vivant. Alors j'en ai pas fait 150 parties non plus, est-ce qu'il tiendra sur la durée ou est-ce que c'est un plaisir ponctuel? Je ne sais pas, pour le moment je le trouve agréable, j'ai envie d'y revenir et je pense quand même, je vais donner mon avis à moi, chacun aura le sien, que pour moi, il peut vraiment tenir sur la durée. Qu'en penses-tu ?
Ouais, c'est possible, parce que un jeu comme ça, avec plein de dés différents, mais qui ne soit pas un jeu de rôle, justement, moi, j'en connais pas d'autres, jeu de guessing pur, avec qui se joue vite et tout, ouais, non, si, ça, il peut se démarquer, je pense que oui, ça peut le faire. Peut-être même qu'il y a un potentiel d'extension d'autres cartes ou de remplacer des cartes enfin de remplacer une luxure par une autre carte luxure qui viendrait d'une extension mais qui aurait un effet un peu différent, pense que ça serait jouable. D'avoir un peu de une plus grande rejouabilité là-dessus, je pense que c'est une base qui peut être améliorée, ouais, encore.
Oui, clairement. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, ce sera intéressant. Et puis, ou après, ça permettrait, par exemple, de faire des mains asymétriques, ce genre de choses, à voir si c'est pas quelqu'un qui aurait une main avec les 7 péchés, l'autre avec les 7 péchés bis, de voir comment ça peut se rencontrer, etc., créer d'autres, des nouvelles synergies, etc. Ouais, je suis d'accord. Voilà. À voir comment si le jeu évolue ou pas, mais dans tous les cas, une vraiment agréable, plaisante découverte et très agréable surprise à ce niveau-là, ouais. Donc c'était Carnival of Sins, donc qui est un jeu d'Alex Nogues, illustré par Vincente Cifuentes. L'éditeur c'est Trangis Game et localisé en France par Actarus Edition. Jouable de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. La durée, on va avoir des parties de 10 à 20 minutes. Le jeu est malheureusement fabriqué en Chine et il est disponible à la Caverne du Gobelin pour 17,90€. Alors, pour conclure, entre miser sur un cheval et voler un dé à son voisin, finalement, on a surtout parlé de jeux où ça peut très vite partir en vrille, non ?
Eh oui, et d'ailleurs, jouer à des jeux d'argent, est-ce que ce n'est pas déjà un peu péché ? Rappelons que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Endettement, dépendance, isolement, conflits familiaux. Consultez joueur-info-service.fr ou appelez le 09 74 75 13 13 pour en savoir plus. Appel non surtaxé.
Alors, je tiens à faire un petit rappel sur le wiki. ProxyJeux dispose d'un wiki sur lequel vous pouvez retrouver tous les termes que nous avons utilisés ce soir. Si vous cherchez un terme un peu technique qui a été utilisé, n'hésitez pas à aller jeter un œil.
Très bonne idée, oui.
Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook, sur Instagram, Mastodonte ou Blue Sky, mais également sur Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et surtout, parlez de nous autour de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider financièrement. Pour ça, vous pouvez passer par PayPal. Vous trouverez les informations nécessaires sur notre site ou par virement bancaire à l'association ProxyJeux. Contactez-nous pour qu'on vous donne notre RIB.
Et la semaine prochaine, place à un dossier sur le remake, le reskin, réédition et réimplémentation, etc. Reboot aussi peut-être.
Peut-être.
Et le mois prochain, rendez-vous pour un nouveau jeu du mois qui sera présenté par un autre duo. À très bientôt et d'ici là, jouez bien.